Nuage délai. Art. Création. Culture. Promenade. Rencontre. Entretien.
Dans cette émission Nuage délai sur JTFM, nous écoutons le premier acte d'une série de podcasts réalisés pour Engênante Opéra. À l'occasion de cette saison 2022-2023, il a été proposé à JTFM de réaliser des rencontres avec certains des artistes et certaines des artistes invités sur la saison. Le premier invité, c'était Philippe Leroux, compositeur de musique contemporaine, qui s'attachait là à son premier opéra avec l'adaptation de L'annonce faite à Marie d'après Paul Claudel. C'était à l'automne dernier. Trois épisodes ont été réalisés, découpés en actes. À partir de cette commande simple, il était proposé à Philippe Leroux de nous faire entendre cinq morceaux de musique ou cinq sons qui l'ont marqué durablement. Nous écoutons dans cette émission Nuage délai l'acte 1 consacré à la voix.
Dans les oreilles de
Philippe Leroux.
Une proposition sonore de Angers-Nantes Opéra en collaboration avec JTFM, réalisée par Henri Landré.
Acte 1, la voix.
Les premiers sons qui m'ont marqué, ce sont les voix en fait. Je pense les voix de ma sœur, de mon père, ma mère, mon frère. Bon, j'ai toujours été un passionné de la voix, et c'est peut-être dû à ça. Je ne sais pas s'ils avaient des voix spécialement belles ou intéressantes, mais voilà. Et après, je me souviens vraiment petit, 5-6 ans, de disques. Je me souviens particulièrement de Debussy, des pièces de piano qu'il y avait à la maison, et Stravinsky, Le Sacre du Printemps, et puis des chansons... France Gall, enfin bon, toutes sortes de choses qu'il y avait, voilà. Du jazz, beaucoup de jazz, parce que mon frère était un grand passionné de jazz. Voilà, et donc par la suite, j'étais assez éclectique, dans la mesure où je jouais de la guitare et du piano, donc ça m'a permis d'aborder toutes sortes de styles, y compris donc le jazz, la bossa, le flamenco, bon voilà, et la musique classique aussi, puisque j'ai étudié en même temps. Et si j'avais la particularité, disons, d'avoir un frère qui était ingénieur du son dans le cinéma, et donc il y avait en permanence un magnétophone à la maison avec un micro. Donc j'ai appris très, très tôt à couper la bande, à la mettre à l'envers. Ce qui fait qu'après, quand je suis rentré au conservatoire, dans la classe de musique électroacoustique avec Pierre Schaeffer, j'étais déjà très habitué, disons, à travailler le son. Voilà.
Lionel, retirez-vous, il finit plein encore et nous sommes seuls ici tous les deux. Et vous savez que je ne suis pas un homme tellement sûr.
Pour moi, qu'il y ait des notes ou qu'il y ait des bruits, tout peut faire partie de la musique à partir du moment où ça devient, on l'utilise comme un langage. Enfin, mais je me souviens quand même que quand j'étais petit, justement, puisqu'on parle de ça, je ne comprenais pas la musique purement instrumentale. C'est-à-dire que pour moi, je ne comprenais pas de la musique où il n'y avait pas de voix, en fait. Ça me paraissait une chose vraiment très abstraite et très, très étrange. Par la suite, j'y suis venu, j'ai écrit aussi pas mal de musique instrumentale, mais en fait, je suis resté quand même avec cette idée-là que la voix, c'était le principe moteur, quoi. C'était... tout simplement parce que la voix s'est connectée directement au corps. Ça fait à la fois partie de nous, c'est notre propre instrument, c'est le corps notre propre instrument quand on chante. Donc c'est quelque chose qui est à la fois très intime et puis en même temps qui nous porte vers l'extérieur. C'est notre lien au monde aussi. Enfin bon, voilà. Surtout en musique contemporaine, il y a deux. Puis alors dans le chant encore plus, mais il y a des courants, par exemple, où on ne fait que du bruit. Où il y a des courants où on élimine absolument tout bruit, justement. Mais moi, j'ai toujours pensé que dans n'importe quel son, il y avait à la fois de la hauteur et du bruit. C'est-à-dire que dans n'importe quel son, il y a des fréquences, et puis il y a des parties bruiteuses. On sait que même en acoustique, les transitoires, premières transitoires d'un son, c'est majoritairement quelque chose de bruiteux. Les transitoires d'extinction aussi. Donc, en fait, tout son contient du bruit. Alors, vouloir éliminer le bruit, quelque part, c'est totalement artificiel, aussi bien que de vouloir éliminer les hauteurs de notes.
Le diable m'a saisi tout d'un coup.
Vous m'avez trouvé plus forte que lui.
Mon aile, je suis ici plus dangereux qu'alors.
Souvent, on pense que le silence, il est dans les sons. C'est-à-dire que il y a tout un courant aussi dans la musique nouvelle qui considère qu'il doit y avoir très peu de sons. Chaque son doit être extrêmement économe pour introduire du silence à l'intérieur du son. Mais moi, je pense en fait qu'on peut être très bavard avec très peu de sons, comme on peut être très silencieux avec beaucoup de sons. Parce qu'en fait, le silence qui est important, ce n'est pas celui qui est dans le son ou non, c'est le silence qu'on crée chez l'auditeur, en fait. C'est ça, le vrai silence. C'est la stupeur, ou l'émerveillement, enfin, quand ça marche, hein, une émotion, quelque chose de très fort qui nous rend silencieux, parce que d'un seul coup, on est happé, interpellé par quelque chose qui est d'autre que nous-mêmes, en fait. J'ai commencé à étudier le piano, puis la guitare. Je suis revenu à la voix plus tard, en fait, quand j'avais 23, 24 ans, où j'ai recommencé à écrire avec voix, et de plus en plus. Et puis, j'ai voulu explorer vraiment la voix. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur des pièces où on comprend très bien le texte, j'ai travaillé sur des pièces où le texte est complètement explosé et on se sert du matériau du texte comme plutôt pour comme des sons en fait, hein, matériaux phonétiques. J'ai travaillé sur des textes où le tout ce qui accompagnait était très figuratif, dans des techniquement on appelle ça des figuralismes, hein, c'est-à-dire des sons ou des mouvements de sons en fait qui suivent le sens du texte. Enfin bon, j'ai exploré beaucoup de facettes de la voix, y compris avec humour aussi. Par exemple, j'ai une pièce qui s'appelle Ma belle si tu voulais sur une chanson du 16e ou du 18e, je sais plus, qui joue vraiment avec les phonèmes et ça peut y avoir des moments tout à fait drôles. Donc voilà, et puis après, bon, bah, petit à petit, j'ai pu commencer à synthétiser un petit peu toutes ces expériences sur la voix dans quelques pièces un peu de référence pour moi, comme une pièce qui s'appelle Voix Rex, par exemple, où on retrouve un peu tout ça. Le travail avec la voix, c'est aussi très souvent, pas toujours, mais très souvent un rapport au texte, en fait. Voilà, à moins de faire sans texte, j'ai aussi fait explorer ça. Mais bon, finalement, la voix, c'est quand même principalement le langage, quoi. Donc bah, voilà, la parole, les mots, le texte, etc. Donc, travailler la voix, c'est aussi... Les différentes façons de travailler la voix impliquent aussi une différente façon de travailler avec le texte. Voilà, donc là, par exemple, à l'opéra, je dirais que c'est... je crois que là, on est dans un travail un peu de synthèse, là, avec toutes sortes d'approches de la voix. Voilà. Un organum, c'est donc une musique médiévale, uniquement vocale, et qui est encore très proche justement du chant grégorien, qui est quelque chose pour moi très important, parce que, pour beaucoup de raisons, mais principalement parce que le chant grégorien, au départ, était écrit sous forme de neumes, c'est-à-dire en fait des espèces de petits dessins qui représentent des gestes vocaux. Et moi, quand j'ai commencé à composer, en fait, on était encore dans une époque extrêmement volontariste sur le son, extrêmement où ce qui comptait le plus, c'était la structure de la pièce. Donc, on coupait on travaillait sous forme de paramétrage, le paramètre de la hauteur des notes, le paramètre du rythme, le paramètre du timbre, et on séparait tout ça, on faisait la combinatoire, etc. Et moi, je me sentais pas à l'aise du tout avec ça. J'avais une approche beaucoup plus proche du son lui-même, en fait, plus que des opérations mathématiques qu'on peut faire sur le son, quoi. Donc ça, c'était surtout ce qu'on appelle la musique sérielle. Et donc voilà, quand j'ai découvert le grégorien, je me suis rendu compte qu'en fait là, c'était une pensée de la musique qui travaillait pas par paramètres, par petits morceaux, mais déjà par des entités sonores, enfin une pensée plus holistique où on divisait pas, c'est pas écrit avec des notes, c'est écrit avec des groupes de notes. Donc on a affaire directement à une espèce de geste, en fait, geste sonore. Qui parfois d'ailleurs, dans l'écriture même du neume, se relie à l'idée d'un geste physique. Par exemple, il y a un neume particulier qui représente exactement le geste physique de quelqu'un qui voudrait diriger un ensemble vocal, par exemple, pour faire typiquement ce son-là. Donc il y a une proximité au geste qui moi, m'a sauté aux yeux puis m'a paru très importante. Donc, c'est un lien, parce que toute ma musique dérive de ça, en fait. Vraiment une pensée comme ça, du geste. Voilà, c'est principalement pour ça que... Et puis j'adore cette musique, en fait, aussi, tout simplement.
Adieu, Violaine, j'emporte votre anneau. Et de ce petit cercle, je vais faire une semence d'or. Entre les parois de la justice, je contiendrai l'or du matin. Et maintenant, adieu, le soleil est levé, je devrais déjà être loin.
Une musique, pour moi, c'est un corps, déjà en soi. C'est-à-dire, c'est comme un organisme. Ça a ses propres lois. Dans une musique, je dirais, il y a du sang qui circule, il y a de l'électricité nerveuse enfin, qui circule, il y a des os, il y a de la chair. Et c'est vraiment, j'ai une image d'une composition, d'une œuvre, d'une pièce, comme étant vraiment organique, comme étant un corps. Alors après, quand j'ai commencé vraiment à comprendre que j'avais envie de travailler justement sous forme d'éléments qui ne soient pas coupés en morceaux, sous forme de gestes. Évidemment, là, je me suis intéressé au rapport entre le geste sonore et puis le geste physique. Toutes les activités proprioceptives du corps, etc. Donc, oui, bien sûr, la question du geste physique est super importante. À tel point que la prochaine pièce que je vais écrire, après l'opéra d'ailleurs, c'est un mélange en fait de gestes sonores et de gestes physiques des musiciens, justement, pour une pièce un peu didactique là, pour montrer vraiment à quel point on peut avoir par exemple le glissement d'un son sur un plan purement sonore, puis qui s'arrête, et puis on a juste un geste de musicien qui continue le même, et puis le son qui reprend et qui termine ce geste par exemple. Et dans notre perception, on le relie comme étant un seul élément. Donc oui, et puis j'ai travaillé beaucoup sur l'écriture notamment. Donc là encore, là par exemple, je travaillais sur l'écriture de Claudel, hein, c'est-à-dire que je suis parti d'une lettre qu'il a écrite. Je ne suis pas parti d'une lettre, je suis parti en fait du manuscrit de l'annonce. Et en fait, on a travaillé à l'IRCAM pas mal là-dessus, c'est-à-dire qu'à décoder en fait, en fonction du graphisme des lettres, à déduire de ça des profils mélodiques, des rythmes, des vitesses, des mouvements dans l'espace, des choses comme ça. Donc, question physique très importante. Et dans les pièces, je dirais strictement, je n'ai pas envie de dire musicales, parce qu'un opéra, c'est musical aussi, mais hors contexte opératique, où là, la narration, moi, me paraît très importante, et il m'a paru essentiel de la conserver. Mais sinon, effectivement, c'est vrai, ce qui fait la narration, c'est plus la logique gestuelle, en fait, des sons, en fait, des mouvements des sons. Voilà. C'est-à-dire que c'est une narration... C'est aussi une narration, mais ce n'est pas une narration rationnelle, ce n'est pas une narration liée au langage, en fait. C'est une narration gestuelle. Par exemple, j'ai une pièce qui s'appelle « L'unique trait de pinceau », qui est un concerto pour saxophone et orchestre. Et en fait, toute la forme de la pièce est un unique geste, comme je m'étais basé sur les gestes de peintres chinois, donc c'est un unique geste qui va du début à la fin de la pièce, où on part vraiment dans le très grave, Et progressivement, on monte comme ça. Bah, il se passe beaucoup de choses, hein. C'est pas juste une chose. Mais le grand geste formel, la grande forme de la pièce, c'est ça. C'est un geste d'un pinceau très précis qui a été médité longtemps avant d'être tracé.
Est-ce tout ce que vous avez à me donner pour elle? Un peu d'or retiré de votre doigt?
Adieu, Pierre.
Adieu, Violaine.
À partir du moment où on quitte la musique tonale, c'est-à-dire la musique la plupart de la musique qu'on entend, classique ou de jazz, enfin bien que ce puisse être modal aussi, mais enfin bon, bref. Dès qu'on commence à travailler hors de la tonalité, il faut trouver des façons de créer une logique au niveau de l'attente de la personne qui écoute. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait justement la musique tonale? C'est qu'on a principalement un type d'accord qui prépare une tension, on a un type d'accord qui font entendre une tension, et on a un type d'accord qui résolve cette tension ou qui la diffère. Voilà. Et tout fonctionne à partir de ce schéma-là. Mais des tensions qu'on prépare et qu'on diffère ou qu'on résout, on peut les avoir de multiples manières, on n'est pas obligé de le faire avec des accords. Donc, mais ce qui compte, c'est effectivement c'est de travailler sur l'idée d'une continuité. Alors ça, pour ça aussi, le geste est formidable, parce que nos gestes physiques, en fait, ils sont toujours continus. Après, bon, on peut les découper, mais... Donc, voilà, alors, si on a un mouvement de son qui est continu, et puis, par exemple, qu'on l'arrête en plein milieu, on va créer chez l'auditeur une attente de ce qui arrive derrière. Donc là, il y a tout un travail très intéressant à faire de jouer sur cette attente, de la donner à entendre ou non, on attend encore un petit peu, puis on introduit une deuxième idée, une deuxième continuité. Et puis chez moi, ça va assez loin, ça va jusqu'à faire des tresses de 3 ou 4 types d'activités ensemble qui sont toutes continues, mais dans lesquelles on retire des moments. Ce qui fait que, en fait, chaque brin de la tresse a une logique absolument de continuité totale, mais comme on retire des moments dans la continuité, ça crée des surprises, mais en même temps, ça reste toujours cohérent parce que la continuité est là. Enfin, vous voyez, on fait le saut. Donc voilà, bon, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. J'ai choisi celle-là, j'aurais pu choisir une musique du Mali ou du Japon. En Occident, et alors surtout dans l'opéra, là, si on revient à l'opéra, on a une unique façon de chanter. Tout est basé sur une technique qui s'appelle le bel canto, qui consiste à en fait, pouvoir chanter le plus fort possible dans des salles les plus grandes possibles et le plus aigu possible, et tout ça en éliminant le maximum de bruit, justement, puisqu'on parlait du bruit tout à l'heure. Alors, c'est une technique remarquable qui a fait ses preuves et qui est toujours d'actualité. Enfin, moi, j'utilise beaucoup aussi. Mais il y a 2 milliards d'autres techniques vocales qui sont absolument extraordinaires et d'une richesse inouïe, et qu'on peut entendre notamment dans des musiques, justement, extra-européennes, bon, bah, comme celle de Papouasie, mais ça aurait pu être une berceuse japonaise ou un yodel des pygmées Aka, ou enfin bon. Et donc moi, je m'inspire aussi de ces techniques-là. quand je travaille avec la voix. Quoi. C'est pour ça que c'est très important pour moi. Les chanteurs, outre le bel canto, je leur demande de travailler sur des voix saturées par moment, sur effectivement des borborythmes, des enchaînements très rapides de phonèmes, sur des effets de chevrotement glottique comme on trouve dans certains chants japonais. Je suis très inspiré par toutes ces musiques. Alors, évidemment, là, je les remets dans un contexte très, très différent de celui qui est le leur. Hein. Mais la voix, c'est quelque chose de tellement riche. Et en général, on l'utilise d'une façon tellement réduite que je trouve que c'est dommage, quoi.
Dans les oreilles de...
Philippe Leroux. Un enregistrement réalisé dans le cadre de la création mondiale de l'annonce faite à Marie du 9 octobre au 19 novembre 2022.
Encore un petit peu, des petites choses dedans.
C'était sur JetFM l'émission Nuages d'Ailay avec le premier acte d'une série de trois autour de Philippe Leroux, compositeur, invité par Angers Nantes Opéra pour la réalisation de son premier opéra, l'annonce faite à Marie d'après Paul Claudel. Et c'est une série de podcasts baptisée Dans les oreilles de, qui propose à différentes et différents invités de la saison 22-23 d'Angers Nantes Opéra de décliner leur passion musicale et sonore. Le premier invité était donc Philippe Leroux. Nous venons d'écouter le premier acte, les actes 2 et 3. Ce sera pour la semaine prochaine dans cette même émission Nuages d'Ailay qui se referme.